Avril Hugues, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce troisième épisode de notre série sur le tramway de Prague, dans le tramway de Prague. Vous êtes française, vous vivez à Prague depuis 4 ans maintenant et vous travaillez sur un projet de guide touristique féministe. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ?
Ouais, en effet, j'habite ici depuis 4 ans et j'ai travaillé pendant 3 ans à l'Académie des sciences tchèque sur les questions d'égalité femmes-hommes, sur les questions de recherche et dans les sciences. Il m'est venu l'idée de faire ce projet parce que c'est quelque chose que j'avais vu en France pas mal, à Paris et à Lyon, là où j'ai étudié. Et j'ai vu que ça n'existait pas vraiment à Prague. Et je trouve que c'est hyper important de partager l'histoire féministe tchèque, notamment aux personnes étrangères qui habitent ici ou aux touristes, parce qu'on n'en entend pas trop parler.
Du coup, vous avez choisi la ligne numéro 9. On est monté à Ouzvonou. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi vous avez choisi ce quartier, cette ligne ? Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Ouais, bah la ligne 9, c'est la ligne que je prenais quasiment tous les jours pour aller au travail. Du coup, elle est importante pour moi. Et ouais, c'est Smirnov, c'est mon quartier, là où j'habite depuis 4 ans. Et c'est un peu un quartier mal famé. Les Pragois et Pragoises, ils aiment pas trop traîner par ici. Mais moi, c'est mon quartier, j'adore. C'est là où il y a mes restaurants vegan préférés. Je vous recommande vraiment d'aller à Pastva, à l'arrêt d'Andiel, ou alors à Eternia, ou si vous voulez du junk food.
Est-ce que vous pourriez décrire un petit peu ce qu'il y a autour de nous, par où on passe ?
Alors là, on arrive à Andiel. C'est un endroit, un hub, en fait, où il y a des bureaux et puis y a pas mal de gens qui travaillent ici et à un shopping mall. Du coup, il y a beaucoup de passages, beaucoup de gens, c'est toujours busy. Et je pense que le côté malfamé dont je parlais avant va un peu changer à l'avenir parce qu'il y a un nouveau quartier qui est en train de se construire à un arrêt de Andiel. Et je pense que ça va un peu changer les dynamiques des environs, du coup, à voir dans le futur. Et fun fact, interesting fact, les nouvelles rues de ce nouveau quartier porteront le nom de plusieurs femmes importantes de l'histoire tchèque. Et voilà, j'ai une liste de quelques noms comme Madeleine Albright, qui a été secrétaire d'État des États-Unis. Et elle est née à Smirnov, du coup ça fait sens qu'elle prenne de la place ici. Il y a aussi une rue qui sera appelée après Toyin, une artiste surréaliste bien connue, ou encore Yezhina Shiklova, qui était une dissidente sous l'ère communiste, et elle a ouvert la voie aux études de genre en Europe centrale. Du coup, c'est hyper important d'avoir le nom de personnes féministes en fait dans les rues de Prague.
Et est-ce que vous savez pourquoi soudainement appeler des rues avec des noms de femmes alors que c'était pas quelque chose qui se faisait nécessairement avant?
Ouais, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont demandé en fait à ce qui est ce changement, parce qu'en effet, à Prague, il n'y a même pas 5% des rues qui sont appelées après des femmes. Du coup, voilà, je pense que c'est l'idée, et ça avait fait un peu du bruit à l'époque quand ces nombres étaient sortis. Du coup, peut-être que les représentants politiques se disaient « Ok, il faut peut-être qu'on fasse quelque chose là-dessus ». Et ça permet d'en apprendre plus aussi. Si tu lèves la tête et tu vois le nom d'une rue, tu dis « Ah, c'est qui cette personne ?» Tu vas aller te renseigner. Je trouve que c'est important.
Est-ce qu'il y a des consultations citoyennes, par exemple ? Est-ce que des fois, on vous demande ce genre de choses ?
Ouais, en effet. Là, j'ai une idée en tête. Il me semble que c'était un pont qui va être créé ou qui est en train d'être construit sur les rives de Smirnov qui vont rejoindre, je sais plus où, de l'autre côté de la rivière. Et il va y avoir une liste de propositions, mais aussi les citoyens pourront voter pour quel nom ils ou elles préfèrent. Alors là, on est à Arbesovo Namiesti. J'aime bien faire mon shopping par ici. Par exemple, j'aime bien aller acheter 2-3 trucs à DM. Il y a aussi la Pekarzi, la boulangerie. Ma boulangerie préférée, elle est à un arrêt avant. Elle s'appelle Teddy à Teddy. Je le recommande aussi beaucoup. Et là, on va arriver vers Svendovo Divadlo, où il y a un théâtre auquel je ne suis jamais allée, mais c'est à faire, un de ces quatre. Et il y a Cyrano de Bergerac, et dis donc. Du coup, là, on est passé juste à côté d'une sculpture de tank. Il me semble que c'est David Tcherny qui l'avait faite. Et il me semble que c'était un hommage à la révolution de velours. Et là, elle est peinte aux couleurs du drapeau de l'Ukraine, du coup, en soutien.
Est-ce que vous avez des souvenirs marquants dans le tram ?
Ce qui me vient en tête, là, c'est l'année dernière, enfin, il y a quelques mois, j'ai aidé à plusieurs reprises des grands-mères à descendre du tram. Parce que les vieux trams, ils ont des grandes marches. Et c'est pas toujours facile pour les personnes qui ont des problèmes de descendre du tram ou de monter dans le tram. Et je me suis sentie vachement intégrée. Parce que je leur ai dit quelques petits mots en tchèque. Elles étaient toutes contentes. Du coup, c'est vraiment un souvenir qui me fait plaisir dans le tram.
Est-ce que vous voyez une différence entre les trams il y a 4 ans et les trams maintenant ? Parce que vous venez de dire que les vieux trams ont des plus grandes marches, c'est-à-dire que le tram dans lequel on est, par exemple, est plus large, il est plus moderne. Est-ce qu'il y a davantage de trams modernes ? Est-ce que vous avez aperçu cette modernisation ?
Alors, j'ai pas forcément vu une évolution ces 4 dernières années. Mais ouais, en effet, ils sont vachement plus pratiques, les nouveaux. Mais au niveau esthétique, je préfère les anciens trams, personnellement. Et là, on passe à côté d'une vue super chouette sur le pont qui va jusqu'à Nalonni di Vadlo. Et on peut voir d'un côté le château, enfin le palais, avec la cathédrale. On a une vue superbe sur la rivière. Et c'est quelque chose que je prenais tous les matins. Du coup, tu te réveilles avec ça, c'est quand même assez incroyable. Et on va arriver à Nalonni di Vadlo, qui est aussi un super beau monument. Et en face du Nalonni di Vadlo, il y a l'Académie des sciences, du coup là où j'ai travaillé pendant 3 ans. Et est-ce que tu veux un petit quiz, Elena ? Ok. Alors, sur les 28 présidents et présidentes de l'Académie des sciences, combien ont été des femmes, selon toi ?
Je dis 2 femmes.
Bravo. En effet, il est très vieux, il a genre 2 siècles, hein, elle a 2 siècles, l'Académie des sciences. Et la première femme, elle est arrivée présidente en 2001. Il en aura fallu du temps, hein. Ça montre qu'il y a encore beaucoup de choses à changer au niveau de l'égalité femmes-hommes, dans les sciences, mais un peu partout.
Est-ce que vous avez remarqué des changements de pratiques sociales dans le tramway ?
Peut-être un changement que j'aimerais voir, c'est plus de transports en commun et moins de voitures dans le centre-ville. Ce qui est demandé par plusieurs partis politiques, mais ça risque pas d'arriver encore très tôt. On va arriver à Lazalska, qui est un peu le hub de la nuit. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, que c'est là où il y a tous les trams de nuit qui s'arrêtent et où tu verras tous les gens qui étaient en soirée essayer de rentrer chez eux. Du coup, c'est assez drôle à voir, je dirais, de temps en temps.
Oui, parce que tous les trams s'arrêtent 5 minutes, je crois. J'ai calculé une fois et c'est vrai que c'est très pratique que le tram passe la nuit aussi. Il y a une assez bonne fréquence. Ça, c'est pas quelque chose qu'on voit dans toutes les villes.
À Lyon, par exemple, les métros s'arrêtaient à 1h du mat, même le week-end. Et après, il y avait peut-être 1 ou 2 bus de nuit, si je me souviens bien. Mais c'était assez galère, quoi. Alors qu'ici, on se sent hyper libre, en fait, de nos mouvements, ce qui est très cool.
Selon vous, qu'est-ce que les transports en commun disent de leur ville ?
Je pense que l'esthétique des trams nous disent quelque chose de, je sais pas, de l'esthétique tchèque. Moi, j'adore les plus anciens trams et ça apporte une identité, en fait. Et il y avait eu, je me souviens bien, un vote pour changer la voix du speaker qui donne les noms des arrêts, etc. Et les gens pouvaient voter pour la voix qu'ils préféraient, etc. Je trouve que c'est une bonne initiative aussi au niveau engagement citoyen. Et là, on arrive à l'arrêt Vodichkova. Et je sais pas si tu vois la Fakultetní škola, ce très beau monument. C'était un monument... Alors, aujourd'hui, c'est une école primaire, mais ça n'a pas toujours été le cas. En 1867, il a été inauguré une école pour les filles, une école primaire pour les filles, ce qui était la première école publique pour les filles sur les terres tchèques au sein de l'Empire austro-hongrois. Et aussi, pendant quelques années, le premier lycée pour filles de toute l'Europe centrale, le Gymnasium Minerva, il a été hébergé pendant quelques années dans cette école-là. Ce lycée, c'était un lycée privé. Les femmes qui ont créé ce lycée ont eu du mal à avoir un endroit stable. Du coup, elles ont bougé pendant plusieurs années dans différents locaux. Là, on arrive à Václavské náměstí, qui est une des places les plus importantes de la vieille ville. Une place centrale sur laquelle il s'est passé des événements très importants. C'est aujourd'hui un endroit où il y a toujours beaucoup de manifs. Et c'est là où il y a eu la déclaration d'indépendance de la Tchécoslovaquie en 1918. Des manifestations contre l'annexation des Sudètes par les nazis. Il y a eu aussi l'immolation de Jan Palach en 1969. Contre le régime communiste, des manifs pour la révolution de velours, enfin voilà, il y a tout qui se passe par ici et aussi sur d'autres places. Et aussi, il y a eu des manifestations de masse au début du XXe siècle, encore sous l'Empire austro-hongrois, pour le vote au suffrage universel. Et les hommes ont réussi à avoir le droit de vote en 1907, mais pas les femmes. Les femmes ont dû attendre un petit peu plus longtemps, elles se sont battues pendant des années et des années, et elles ont réussi à l'avoir en 1920, ce qui est un peu plus tôt que certains pays comme la France, en 1944. L'Allemagne, c'était en 1918. L'Angleterre, 1928, il me semble. Enfin, voilà.
Est-ce que vous saviez comment fonctionnait le mouvement des suffragettes ? Est-ce qu'il y avait un mouvement comme en Angleterre, par exemple ? C'était les mêmes modes opératoires pendant les manifestations ou...
Alors, non. C'était assez différent, finalement, parce que les suffragettes tchèques se sont placées dans le cadre de la lutte pour l'indépendance. Du coup, c'était un mouvement nationaliste, en fait. Et elle se plaçait vraiment au sein de ce mouvement, que la libération des femmes, ce serait la libération de la nation, ce qui est quand même très différent. Et du coup, les hommes et les femmes travaillaient ensemble pour pouvoir arriver à l'égalité. Et enfin, les hommes, pas tous les hommes, mais certains hommes plus progressistes, on va dire, de l'époque. Et c'était des marches, en général, pendant les manifestations, c'était des marches pacifistes. Elles avaient leur propre cortège, avec leurs bannières, etc. Mais il n'y avait pas, par exemple, de couleurs spécifiques aux suffragettes tchèques. C'était vraiment les couleurs. Je ne sais même pas s'il y avait des couleurs, en fait. C'était juste, on est là avec les hommes et les autres partis qui veulent l'indépendance et on marche ensemble.
Et est-ce que ça a eu des conséquences particulières sur la suite du mouvement ? Est-ce que ça a ralenti le mouvement dans les années qui ont suivi ?
On va dire qu'elles ont connu une certaine désillusion une fois que la première république a été instaurée en 1918. Elles pensaient qu'avec ce changement, il y aurait des changements sociaux incroyables, que tout allait s'améliorer, ce qui n'a pas été le cas. Et ensuite, il y a eu l'entre-deux-guerres, où elles ont continué à faire du lobbying pour changer, améliorer leurs droits. Mais ça n'a pas porté ses fruits tout de suite. Et il n'y a eu que certaines femmes qui ont réussi à intégrer le Parlement, les positions de pouvoir, comme Františka Plaminková ou Milada Horáková aussi, qui a été membre du Parlement.
Est-ce que vous pourriez décrire où est-ce qu'on est ? On arrive vers Žižkov en ce moment ?
On arrive vers Žižkov, on vient de passer la gare centrale de Prague, qui est aussi un coin pas très apprécié des Pragois et Pragoises qui essayent de l'éviter parce que il et elles se sentent pas forcément en sécurité, parce qu'il y a pas mal de personnes qui traînent, et notamment des personnes sans abri. Et vu qu'on parle de ce sujet, j'aimerais bien parler d'une association que j'aime beaucoup, qui s'appelle Yakodoma, et qui aide les personnes, les femmes sans abri, à être réintégrées à la société, qui les aide à trouver du travail. Elles ont une équipe de femmes sans-abri qui propose leurs services de catering, du coup pour aller cuisiner pour des événements, etc. Et je trouve que c'est hyper important d'avoir ce genre d'initiative pour essayer d'améliorer la situation de ces personnes-là. Et aussi, la question des femmes sans-abri, elle est moins visible. Du coup, on peut voir des hommes de temps en temps, mais les femmes, leurs stratégies sont différentes pour vivre dans la rue, parce que c'est plus dangereux pour elles, elles sont plus vulnérables. Du coup, elles peuvent aller dormir chez des amis en retour de choses qui les mettent aussi dans des situations de vulnérabilité. Je suis pas sûre qu'il y ait des refuges spécifiques pour femmes sans abri, mais ce serait à vérifier. Du coup, là, on arrive dans le quartier de Olchanska, où il y a le cimetière de Olchanské hřbitov. Et c'est un peu l'équivalent du Père Lachaise, je dirais. Il y a pas mal de personnalités politiques ou des artistes qui sont enterrées là-bas, et notamment des personnalités importantes pour l'histoire des femmes, des droits des femmes. Il y a Eliška Krasnohorská, par exemple, qui y est enterrée. C'est une des personnes qui s'est battue pour l'éducation des filles et des femmes. Je parlais du Gymnasium Minerva, c'est elle qui l'a créé. Karolina Svietla, c'était sa mentor, et elle s'est aussi battue pour les droits au travail, par exemple, des femmes. Ça, ça se passait au milieu du 19e siècle et début du 20e siècle. Oui, j'ai des copains qui habitent pas loin de l'arrêt où on est. Là, on est à Biskupcova. Voilà. Mais sinon, je vais rarement beaucoup plus loin que là où on est, sur cette ligne en tout cas.
Donc, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, Avril Huc. C'était notre troisième épisode de la série sur le tramway de Prague, dans le tramway de Prague.